C'est la rentrée pour toutes les structures culturelles qui peuvent enfin programmer des concerts, du théâtre, des expos et autres événements conviviaux et festifs. Le public est-il au rendez-vous ? Une question qui reste en ce moment un peu en suspens. On reçoit dans les studios de PFM Suguna et Mariola de l'Escapade d'Hénin Beaumont pour évoquer les temps forts de la programmation pour cette rentrée et des interactions avec le public. On abordera également les conséquences de la pandémie qui a impacté le monde de la culture. On accueille dans les studios donc Suguna Oulard, chargée de diffusion et des projets éco-responsables. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Mariola Gora, programmatrice jeune public et chargée de communication. Bonjour.
Bonjour.
On va parler donc de l'escapade, de la nouvelle saison qui commence, enfin, on va dire. Et on va revenir évidemment sur cette pandémie. Alors, comment vous, à l'escapade, quand tout s'est arrêté, là, le monde de la culture s'est arrêté, comment vous avez vécu ce moment et qu'est-ce qui s'est passé pour vous ?
Alors, lors du premier confinement, on se posait pas de questions parce que c'était général, donc tout devait fermer, donc il n'y avait pas de souci. Quand on a réouvert, on s'est dit oui, il faut absolument faire quelque chose. Donc, durant tout l'été 2020, on a proposé des spectacles, des petites formes, des choses pour le jeune public, des concerts, une création. Un peu loufoque avec des artistes en résidence. Donc on a passé un très bel été. Tous les 15 jours, le public avait répondu présent, il y avait une envie. Le début de la saison avait bien commencé. On avait plein d'espoir. On avait des dates qui s'étaient bien remplies. On avait reporté quelques spectacles, notamment les Chiches Capons, Nash. C'était plein. Olivia Moore, c'est pareil. Enfin, ça, on avait quand même une belle salle. Et puis tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. C'était pire que le premier confinement parce qu'on nous faisait miroiter de potentielles rouvertures. Alors que le temps passait et toujours rien. Donc on ne pouvait pas rester sans rien faire. L'Escapade, c'est une association, donc on a des financeurs. Donc il faut qu'on puisse démontrer, qu'on ait des bilans quand même, qu'on fasse quelque chose, qu'on n'ait pas de l'argent comme ça pour rien. Donc on a investi les écoles. On a fait pas mal de projets au lycée, au collège, en primaire, en maternelle. On a fait tout ce qu'il y avait à faire avec des artistes. On a aussi participé au CLEA de la communauté d'agglomération des Nain-Carvin. Et on a vu qu'effectivement, il y avait un manque de culture. Les gamins, ils étaient contents qu'on vienne chez eux. Même les lycéens, on a fait un CLEA avec une classe de BTS et la compagnie NIA autour du hip-hop. Eh bien, voilà, c'est des jeunes qui ont 20 ans, mais ils étaient trop contents, en fait. Ils se la racontaient un petit peu. c'est pas nous, mais en fait, ils ont dansé, ils ont joué le jeu, ça leur a fait du bien, une bouffée d'oxygène. On a fait un peu de graphe avec eux. Ils se sont concentrés, ils ont mis de la couleur. Avec une école primaire, on a fait, avec une artiste, Amandine Fluet, de la compagnie La Voyette, on a fait une visite de l'escapade parce que c'est des gamins qui... c'est une des écoles les plus proches de l'escapade. Ils ont l'habitude de venir sur plein de spectacles et avec elle, on a fait une visite un peu décalée sur l'escapade et on a réussi à la fin de saison à pouvoir inviter les parents à faire une représentation pour les parents. C'était super. On a fait, plein de choses. Et même Ségolène, on l'a fait intervenir dans des écoles. Elle a fait des petits concerts. Elle a fait une découverte de son instrument, la harpe. On a été dans les IME aussi avec elle. On a essayé d'aller un petit peu partout où on pouvait aller. Et les spectacles qui pouvaient se jouer dans les établissements scolaires, où il n'y avait pas besoin de beaucoup de techniques, on a pu les faire et ça aussi, ça a été des victoires pour nous.
Oui, donc ça a été un peu l'escapade hors les murs, on va dire.
C'est ça, voilà. Ouais.
Et Ségolène, que vous évoquiez, la harpiste, elle sera donc le 10 novembre à l'escapade pour un concert en première partie de l'ONI.
C'est ça, oui.
Festival Haute Fréquence.
Ouais, exact.
Alors donc, on va parler un petit peu de cette programmation. On ne pourra pas tout dévoiler parce qu'il y a énormément de choses. Il y a déjà des choses qui se sont passées et notamment, vendredi dernier, le 1er octobre, il y a eu la compagnie avec Vue sur la mer et Bande de Belges, qui est un spectacle qui est plutôt hilarant. Comment ça s'est passé? Le public était au rendez-vous, j'imagine?
Alors, au rendez-vous, oui, mais différemment, parce qu'on parle forcément avec un petit peu toutes les salles. Il n'y a pas un engouement dès l'ouverture de la billetterie, dès l'annonce des programmes. Les gens viennent au coup par coup, un peu plus, 2-3 jours avant, ça réserve un peu plus, mais les habitudes ont un peu changé.
Ouais, vous pensez qu'il y a, une mise en route à revoir, les gens ils sont un peu frileux et puis finalement après, une fois qu'ils ont passé le cap, hop.
On espère que qu'une fois qu'ils ont passé le cap, ils reviendront sans souci. On sait qu'il y a l'histoire des passes sanitaires, c'est pas toujours, les gens le comprennent, on est obligé de le demander, mais ça joue pas forcément en notre faveur. C'est quelque chose qui s'est généralisé, c'est pas uniquement à l'escapade, c'est au-delà du bassin minier, c'est un petit peu partout en France. Il y a un article dans Le Monde là, qui est paru, qui titrait « Où est le public ?» Parce que les gens ont peut-être pris des bonnes ou mauvaises habitudes à regarder un petit peu les plateformes de streaming.
C'est sûr que même les rendez-vous en visio, c'était les spectacles aussi en visio. Parce que,
c'est ça aussi, je pense que toutes les salles vont se retrousser un petit peu les manches pour accueillir du public, pour aller vers le public, leur rappeler combien c'est bon le spectacle vivant, combien c'est unique ces moments, ces concerts aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les artistes sont sur scène pour le public et à chaque fois c'est unique et c'est magique.
Qu'est-ce que vous nous proposez de beau? Alors, il y a la compagnie Protéo d'ailleurs qui sera le vendredi 8 octobre avec l'Apocalypse selon Gunther, une compagnie que vous accompagnez d'ailleurs, qui est en résidence à l'Escapade si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça, c'est une compagnie qu'on a déjà accompagnée aussi la saison dernière, mais on trouve que le travail notamment de Louise Whaley est formidable. Elle est jeune, elle a de l'avenir devant elle, donc elle sait mélanger humour et histoire. Enfin, il y a quelque chose chez elle et on a vraiment envie de l'accompagner sur ses projets. Et là, l'Apocalypse selon Gunther, c'est l'histoire d'une famille lambda américaine qui vit en direct le largage d'une bombe à Hiroshima. Et l'auteur du texte a même été au Japon à rencontrer des associations de victimes de cette bombe atomique. Donc il y a vraiment eu un travail de recherche particulier et poser un autre regard sur ça, sur comment ont vécu les personnes à ce moment-là, parce que forcément à des milliers de kilomètres, cette époque-là, c'était différent. Il y aura du rire. On a essayé de faire des choses joyeuses aussi, parce que justement, après tant de mois de fermeture, tant de nouvelles anxiogènes, on a plutôt envie de rire et de sortir. Et puis d'ailleurs, là déjà, le jeudi 14 octobre, on aura un super plateau, double plateau avec Clou et Noé Préchoff, qui ont été nommés aux Victoires de la Musique 2001. Donc ça, on en est fiers. On devait le faire au mois de mars 2020, forcément. Mais on a réussi à le faire reporter, donc ça, on est super heureux. Ça va être un très, très beau plateau.
Et puis, le 21 octobre, il y aura la compagnie BVZK, qu'on connaît un petit peu maintenant, avec un focus sur un portrait, on va dire, de Janis Joplin.
C'est ça, oui. Alors ça, c'est une belle création aussi. Donc c'est pareil, c'est des choses qui auraient dû se faire la saison dernière. Si vous aimez Janis Joplin, c'est son univers, ces années-là, n'hésitez pas à venir voir ce spectacle parce que c'est du théâtre, mais il y aura aussi du chant. C'est donc effectivement la comédienne, son personnage est persuadé d'être la réincarnation de Janis Joplin. Donc on va revivre un peu ses déboires, mais un peu au goût du jour dans les années 2020. Mais voilà, donc Janis Joplin, ouais, c'est... univers rock'n'roll.
Et il y aura de la musique classique aussi à l'inverse, hein, avec le trio Morgan, avec Portrait de femme.
C'est ça. Donc...
Ce sera le 12 novembre.
Ouais, c'est dans le cadre d'un festival en voix. Donc oui, on est assez, au niveau de la musique, on est assez éclectique. Voilà, chansons françaises, musique classique. On aura aussi plus tard dans la saison de la funk reggae avec Voodoo Game. Mm-hmm. Donc non, voilà, au niveau de la musique, on essaye d'en offrir un petit peu pour tous les goûts.
Puis un gros temps fort également qui se déroulera du 23 novembre au 11 décembre, c'est le festival Jeune Public Pain d'Épices. On peut peut-être en parler un petit peu de ce qu'on va y voir.
Alors oui, cette année, c'est la troisième année, on essaye de mutualiser un petit peu ce festival avec d'autres communes ou structures. Donc il y a par exemple le 99 bis qui nous suit, qui va proposer aussi une date pendant ces trois semaines. On a l'école buissonnière à Montigny-en-Goële. On a le Droit de Cité aussi qui fait l'ouverture un passage de relais entre nos deux festivals, Tcholupio pour très jeune public et Pain d'Épices pour jeune public, enfin encore d'autres partenaires. Et voilà, donc c'est cette année, personnellement, j'ai pas misé sur des concerts pour enfants parce que ne sachant pas comment ça allait se passer, j'imagine mal les enfants masqués en train de crier et tout. Comme on a l'habitude, comme on a déjà eu l'habitude, donc l'année prochaine, ils pourront plus exploser et crier. Mais non, c'est une programmation pareille, douce, joyeuse, rêveuse, qui va permettre, qui fait réfléchir aussi, que ce soit acidulé, c'est un spectacle. Visuellement, on fait waouh. Et en fait, il y a très peu de paroles, mais ça parle un peu de surconsommation, de travail à la chaîne. Minute Papillon, c'est une création aussi, la compagnie La Rustine, qu'on adore beaucoup, qui mélange musique et théâtre. Et donc c'est autour du temps, le temps qui passe, le temps, les saisons. Donc ça, c'est bien pour les jeunes enfants, effectivement. C'est très drôle. Ils étaient en résidence chez nous il y a 15 jours, 3 semaines. Donc on a vu la quasi-totalité du spectacle ça va être drôle, ça va être très très drôle. Il y a des spectacles autour de l'amour aussi, des rencontres, Miette et Léon. Donc non, voilà, une programmation douce, poétique, un petit peu des petits moments de bonheur pour oublier ces derniers mois.
Et d'ailleurs, on invite tous les auditrices et auditeurs qui s'intéressent du coup à la programmation de l'escapade d'aller sur le site internet www.escapadetheatre.fr pour avoir tout le programme. On peut peut-être citer qu'il y a dans ce festival Pain d'Épices, il y aura la compagnie Nautique, la compagnie Enlacée, la compagnie Lolium, La Rustine, on l'a cité, et puis la compagnie des Fourmis dans la Lanterne également.
C'est ça.
Et la Manivelle Théâtre.
Ouais.
Alors, il y a eu un changement de direction, puisque c'est aussi les 30 ans de l'escapade, quand même. Faut le dire.
Au mois de janvier, oui, c'était les 30 ans. Officiellement, c'était au mois de janvier 2021 où l'association a fêté ses 30 ans. Donc, on n'a pas pu faire de grandes fêtes comme on l'aurait souhaité. On a un peu invité les adhérents lors des journées portes ouvertes en début septembre autour d'un buffet, autour d'un verre. Voilà, on a forcément, avec les contraintes sanitaires, on ne pouvait pas... se sauter dans les bras, on ne pouvait pas. Tant que la situation ne s'améliore pas, on ne pourra pas faire de grosses fêtes.
Voilà, donc changement de direction. Avant, c'était Bruno Lajara, et ça tombe bien, puisqu'il reviendra également avec son spectacle qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque où il est sorti, 501 Blues. Et ça, ce sera pour le mois d'avril, mais on peut peut-être en parler, parce que c'est quand même une figure assez importante, notamment avec cette pièce qui a fait beaucoup de bruit.
Oui, elle a fait beaucoup de bruit et je pense qu'elle en fera encore parce que ça reste dans l'air du temps. Hein, quand on parle du chômage, des fermetures d'usines, l'année dernière, il y a eu Bridgestone. Donc voilà, ça rejoint un petit peu tous ces salariés qui se retrouvent à la porte du jour au lendemain. Et donc un spectacle engagé, oui, qu'on est ravis d'accueillir effectivement le 28 avril. Mis en scène par Bruno Lajara et écrit par Christophe Martin. Mmh. C'est vraiment un moment d'engagement. On sent qu'il y a encore beaucoup il y a beaucoup d'histoires de fermeture d'usines, quelles qu'elles soient. On a eu déjà les Samsonites à Hénin-Beaumont, donc Voilà, c'est, on sait ce que c'est. Le bassin minier a été très touché ces 20 dernières années, 20-30 dernières années. Donc, continuer aussi à montrer aux gens ce que c'est aussi les fermetures abusives comme ça.
Et puis, y a un festival de courts-métrages également qui s'appelle les Colporteurs d'images. C'est la 3e édition. Et là, on donne la parole à Suguna qui va nous en parler.
Donc, ce festival de courts-métrages a été initié il y a de cela 3 ans, à l'occasion justement des 50 ans du bâtiment de l'Escapade. Et donc l'intention de ce festival était dans un premier temps de valoriser le territoire, mais en proximité au niveau de la communauté d'agglomération de Hénin-Carvin. L'édition 2020 qui n'a pas eu lieu, qui a été reportée et finalement a eu lieu en juin 2021, a été un grand succès. Parce qu'en fait, on a réussi à toucher aussi bien des lycéens que des jeunes fréquentant la maison des ados des Nimbaumont, une structure médicalisée, et on a eu la grande occasion de rencontrer aussi de nouveaux jeunes talents en vidéo, où la vidéo qui a été proposée, il s'est présenté vraiment en amateur, et en fait ça touchait presque la catégorie pro. Donc ce festival pour l'édition 2022, donc le projet se fera et l'intention sera autour du bassin minier, étant donné qu'on sera partenaire avec Mission Bassin Minier, et notamment à l'occasion des 10 ans de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est pour cette édition, l'intention est vraiment de valoriser le territoire, mais dans sa globalité. Tous les monuments UNESCO que l'on a en région, ils sont très 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 nombreux. Et donc ce festival de court-métrage a pour intention donc de aussi bien pour les amateurs que pour les demi-pros ou les pros complètement, de proposer donc un court-métrage de maximum 5 minutes et donc sur la thématique du bassin minier. Donc ça reste assez large parce que les perceptions peuvent être aussi bien dans le documentaire, dans la fiction, toutes les thématiques de vidéo sont possibles. Voilà.
On peut filmer avec son téléphone portable, on peut filmer avec une caméra, il y a quand même un règlement strict ou pas ?
Il faut juste que ça ne dépasse pas 5 minutes, générique compris. Après, voilà, au niveau de la thématique, nous, on est large, il n'y a pas forcément quelque chose d'imposé. Quand on dit bassin minier, ça peut être juste filmé sur un terri, une histoire totalement d'extraterrestre, ou faire un documentaire autour des corons. Enfin, chacun a sa vision, comme disait Suguna. On a une idée. Il faut justement la modeler pour que ça puisse rentrer dans le cadre du bassin minier. Donc c'est assez facile pour parler du patrimoine. On peut parler de plein de choses, quoi. Donc d'environnement. Donc c'est assez facile. Enfin, si on a une petite idée, si on aime le cinéma, c'est assez facile de trouver quelque chose.
Et justement, en fait, par rapport à l'aspect technique de prise de vidéo, donc sur le côté et aussi bien pro que amateur, c'est tous les outils techniques qui existent aujourd'hui, donc aussi bien la tablette que le drone, que le téléphone, que les micro-caméras, enfin tout ce qui est existant. Avec quand même une capacité de compréhension en fait du film, pour dire qu'il y a quand même une histoire derrière. Et dans l'intention aussi en parallèle par rapport à la structure de soutenir aussi de potentiels talents à venir. L'exemple qui me vient, en fait, l'année dernière, on a eu la Maison des Ados qui ont participé. Ils avaient gagné le concours du nombre de votes sur notre chaîne YouTube de la vidéo sélectionnée qui a reçu le plus de pouces bleus. Et donc, deux jeunes de cette maison des ados s'étaient motivés tout doucement en septembre-octobre auprès de la maison des ados pour participer à ce court-métrage. Donc, ils l'ont créé au fil des mois. Et en fait, au fil des mois, on a découvert que ces deux jeunes, cette année, rentraient à l'université d'Arras dans la section audiovisuelle. Donc on est assez content de ce genre de rencontre parce que ça permet de booster un petit peu aussi ces jeunes de la maison des ados et en fait de confirmer leur passion qui était déjà un petit peu sous-jacente. D'où un peu aussi l'intention de ce festival de valoriser potentiellement un intérêt culturel pour la vidéo et de le mettre en lumière.
Comme il y aura des amateurs également, comment ça va se passer pour eux ? Peut-être qu'ils ne savent pas tout à fait maîtriser la technique justement. Est-ce qu'il y a un accompagnement éventuellement ? Quelqu'un qui viendrait vous voir en disant « moi j'aimerais bien faire ça, un petit film là-dessus, mais je n'ai pas de matériel, je ne sais pas comment faire ».
Alors, on a un partenaire, en fait, qui s'est créé, enfin, qui a commencé, on va dire, il y a de ça 2 ans. C'est Mine de Rien, avec Aurélien et Maxime, avec qui on travaille régulièrement sur, notamment cette année, d'autres actions. Mariola, elle en parlera tout à l'heure.
L'année dernière, pour les amateurs, ceux qui découvrent, qui ont envie, mais qui ne savent pas faire, on leur a commandé une série de tutos sur comment tourner un film, qu'est-ce que le cinéma, comment prendre le son. Et donc, comme ça, il y a 8 épisodes entre 7 et 15 minutes qui sont encore visibles sur notre chaîne YouTube. Et voilà, si on ne sait pas du tout comment faire, on peut les regarder. Ils sont encore totalement d'actualité. Après, voilà, ils poussent un petit peu dans le matériel un peu plus professionnel, mais rien n'empêche de venir à l'escapade sur les ateliers vidéo, du coup, qu'on a mis en place les mercredis après-midi. Et aussi, on va faire avec eux, avec Mine de Rien, des stages pendant les vacances scolaires. Il y aura trois semaines de vacances étalées durant la saison. Il y aura 3 thématiques. Je sais qu'il y en a une, c'est sur les genres de films, comment on déconstruit un genre, quels sont les codes, et en faire justement après un court-métrage. Après, je sais qu'il y aura un truc un peu improbable. Et le dernier, je ne l'ai plus en tête, j'avoue, mea culpa, Mine de Rien.
Mais de toute façon, on pourra trouver toutes ces infos sur le site.
Exactement.
Voilà. Et alors, comment on fait pour s'inscrire ?
Les modalités d'inscription sont bien détaillées justement sur le site. Il y a un formulaire à compléter par rapport à la partie entre guillemets administrative et normative. L'envoi donc peut se faire via les WeTransfer, des choses comme ça. Et de toute façon, s'il y a un souci de dépôt via le net, dans tous les cas, c'est possible de déposer en clé USB potentiellement sur... en passant à l'escapade, en fait, pour déposer le fichier, ou même par envoi postal, il y a possibilité, tous les envois et les réceptions de fichiers sont possibles.
Ok, et donc ça, ce sera pour le... ça se passera, hein, la remise des prix, on va dire, le samedi 2 juillet, les amateurs, et puis ceux qui auront fait des films, ont jusque le 15 juin...
Le 5 juin pour envoyer leurs films.
Le 5 juin, 23h59, précisément, excusez-moi, ouais. C'est le 15 juin, ce sera publié sur la chaîne YouTube de l'Escapade.
Il y aura pareil de nouveau le vote du public, un prix vraiment décerné. Et à la veille, on arrêtera les compteurs et puis on décernera le prix à celui qui aura reçu le plus de likes.
Ouais, le petit pouce levé.
Voilà.
Hein. Et qu'est-ce qu'on y gagne au fait ? C'est quoi le prix ?
Alors, l'année dernière, on a eu notamment des bons d'achat auprès d'un fournisseur de matériel vidéo assez high-tech. On a eu aussi une proposition de remasterisation d'un film.
D'accord.
Qui avait été proposé. Donc là aussi, c'était cette démarche d'amateur où le film, clairement, on voyait que c'était des amateurs. Et donc là, le cadeau était de revoir justement avec Mine de Rien un aspect un peu plus technique, pro, et donc de remasteriser le film la structure avait proposé pour dire qu'il soit un peu plus de meilleure qualité, donc de ce fait un accompagnement vidéo différemment. On a aussi là prochainement, le 28, 29 et 30 octobre, les derniers cadeaux qui seront offerts, et donc là en fait ce sera avec la Maison des Ados où ils vont vraiment apprendre toutes les techniques pro de montage, de réalisation, de création, enfin voilà, donc des cadeaux continuent.
Très bien. Avant de terminer, on peut peut-être évoquer aussi le projet plateforme.
Oui, alors la plateforme, c'est un dispositif régional. C'est un financement qui nous permet d'accompagner des jeunes compagnies. Cette année, on a choisi effectivement la compagnie La Voyette. Enfin, notamment Amandine Fuet, donc cette artiste qu'on a rencontrée la saison dernière. On devait effectivement la programmer cette saison. Elle attend un heureux événement, donc ce sera reporté à l'automne 2022. Mais c'est des temps de résidence qu'on va lui proposer, des accompagnements plus précis, selon ses besoins. C'est comme par exemple quand on accompagne, Mine de Rien, on parle beaucoup d'eux aujourd'hui. mais c'est vrai qu'on les accompagne parce que voilà, c'est tout nouveau pour eux. Ils ont des fois des questions au niveau administratif, au niveau comptabilité, comment se déclarer, ce genre de choses. Et donc c'est aussi des une sorte d'accompagnement. Il n'y aura pas que ça, évidemment. Le fait qu'on les prenne sous notre aile au travers des ateliers, c'est aussi un accompagnement. Mais ils vont travailler sur différents projets. On a su que dans un lycée, il y a un projet d'atelier vidéo qui a été accepté pour une 60aine d'heures. Donc, c'est des choses quand même... c'est des gros projets quoi, qui coûtent quand même un petit peu d'argent. On est content pour eux parce que en un an ils ont quand même bien explosé, ils commencent à se faire un petit peu connaître. Après on continue notre travail d'accompagnement au travers différents temps de résidence. Ça c'est important, on n'est pas qu'un lieu de spectacle, on est un lieu d'accueil pour les compagnies, on est un lieu de pratiques amateurs. Il y a plein de choses qui sont à faire entre les ateliers et les spectacles. On va essayer, il faut que ça reprend parce que voilà, avec ces fermetures, on va essayer de proposer des masterclass en danse ou bien quoi. Donc c'est un travail au quotidien là qu'on reprend parce que c'est des choses qu'on ne pouvait pas envisager avant, ne connaissant pas les conditions d'accueil. Donc maintenant, on carbure.
Voilà, donc plein de bonnes choses en perspective. Et puis, bien sûr, il y a des ateliers aussi qui sont proposés. Et aussi, hein, une mise à disposition du studio de répétition. Si on est musicien amateur, on peut toujours s'inscrire. De toute façon, c'est sur le site internet également.
Sur le site. Et puis, n'hésitez pas à passer un coup de fil au 03 21 20 06 48 ou envoyer un petit mail à accueil@escapadetheatre.fr. Sinon, vous pouvez également suivre toutes les infos sur la page Facebook L'Escapade d'Héna Beaumont et sur Instagram aussi. Et vous pouvez poser vos questions, il n'y a pas de souci, on est là.
C'était un entretien avec Suguna Ular, chargée de diffusion et des projets éco-responsables, accompagnée de Mariola Gora, programmatrice jeune public chargée de communication de l'escapade d'Hénin-Beaumont.